Audiolib présente Le vol du frelon de Ken Follett. Traduit de l'anglais par Jean Rosenthal, lu par Valentin Merlet. Prologue. Un homme avec une jambe de bois claudiquait dans un couloir d'hôpital. Vigoureux et athlétique, malgré sa petite taille, la trentaine, vêtu d'un costume gris anthracite et de chaussures noires à bout à portée, il avançait d'un pas vif, mais le tip-tap, tip-tap, un peu irrégulier de sa démarche, trahissait son infirmité. Son visage crispé laissait deviner une profonde émotion. Arrivé au bout du couloir, il s'arrêta devant le bureau de l'infirmière. « Le capitaine Ohr, » demanda-t-il. L'infirmière, une jolie brune à l'accent chantant du comté de Cork, leva les yeux de son registre. « Vous devez être un parent, j'imagine, » dit-elle en souriant. Son charme resta sans effet. « Son frère, » répliqua le visiteur. « Kelly ?»«
Le dernier sur la gauche. »
Il pivota sur ses talons et suivit l'allée jusqu'au bout de la salle. Tournant le dos à la pièce, une silhouette en robe de chambre marron, assise sur une chaise, regardait par la fenêtre, une cigarette à la main. « Bart ?» fit le visiteur d'un ton hésitant. L'homme se leva et se retourna. Un bandage lui entourait la tête et il avait le bras gauche en écharpe, mais il souriait. Il était plus jeune et plus grand que le visiteur. « Bonjour, Digby. » Digby prit son frère dans ses bras et le serra très fort. « Je te croyais mort, » murmura-t-il sans plus pouvoir contrôler ses larmes. « Je pilotais un Whitley, » racontait Bart. L'Armstrong Wyworth Whitley était un lourd bombardier à longue queue qui, en l'air, semblait toujours piquer du nez. Au printemps 1941, le Bomber Command en possédait une centaine sur une flotte totale d'environ 700 appareils. « Un Messerschmitt a ouvert le feu et nous a touchés en plusieurs points », reprit Bart. « Puis il a filé sans nous achever, probablement à court de carburant. Je me suis dit que c'était mon jour de chance. Malheureusement, le Messerschmitt avait dû endommager les deux moteurs, car nous avons commencé à perdre de l'altitude. » Nous avons alors largué tout ce qui n'était pas fixé à l'appareil pour diminuer notre poids, mais ça n'a pas suffi. Et j'ai tout de suite réalisé que nous allions devoir nous poser sur la mer du Nord.
Digby s'assit sur le bord du lit d'hôpital, les yeux secs maintenant. Il fixait le visage de son frère dont le regard emporté par les souvenirs se perdait dans le vague. J'ai ordonné à l'équipage de larguer la trappe arrière et de se mettre en position de saut. Le dos contre la cloison. Dans un Whitley, ils sont cinq, se rappela Digby. Quand nous avons atteint l'altitude zéro, j'ai tiré à fond sur le manche en mettant plein gaz. Mais l'appareil a refusé de se redresser et nous avons heurté l'eau avec une violence inouïe. J'ai été assommé par le choc.
Ils étaient demi-frères. Après la mort de sa femme, le père de Digby avait épousé une veuve. Déjà mère d'un garçon de 5 ans. Tout de suite, Digby, son aîné de 8 ans, avait veillé sur son petit frère, le protégeant des brimades et l'aidant à faire ses devoirs. Passionné d'aéroplanes, ils rêvaient tous deux de devenir pilotes. Seul Bart avait réalisé leur rêve. Digby, ayant perdu sa jambe droite dans un accident de moto, avait fait des études d'ingénieur pour se consacrer à la conception aéronautique.
Quand j'ai repris connaissance, j'ai senti de la fumée. L'avion flottait et l'aile